السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت زید بن حارثہ کے ذکر میں بعض مزید واقعات اور حوالے ہیں جنہیں آج میں پیش کروں گا.
Je présenterai aujourd'hui d'autres récits sur Zayd bin al-Haritha.
زید بن حارثہ کے ایک ذریعہ
Zayd bin al-Haritha avait participé dans une seria au cours du mois Rabiul Akhr en l'an 6 de l'Hégire contre les Banu Sulaym. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, écrit à ce sujet: au cours du mois Rabiul Akhir, en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed a envoyé son esclave affranchi et son compagnon bien-aimé, Zayd bin al-Haritha, à la tête de quelques musulmans contre la tribu Banu Sulaym. Cette tribu se trouvait dans la région du Nejd, dans un lieu dit Jamoum. Et cette tribu avait comploté depuis quelque temps contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tribu avait tenté de combattre les musulmans. D'ailleurs, cette tribu avait aussi joué un rôle prépondérant contre les musulmans lors de la bataille du Fossé. Quand Zayd bin al-Haritha et ses compagnons sont arrivés à Jamoum, qui est situé à 50 milles de Médine, eh bien, il n'y avait personne là-bas, le lieu était désert. Mais ils ont trouvé une certaine Halima, une femme appartenant à la tribu Muzayna, une tribu qui était hostile envers l'islam. Cette femme a informé les musulmans où se trouvait une partie des Banu Sulaym et où ils étaient en train de faire paître leurs animaux. Profitant de cette information, Zayd est descendu sur ces lieux. La majorité de l'ennemi s'est dispersée suite à cette attaque soudaine. Mais les musulmans ont fait quelques prisonniers et ils ont aussi pris du bétail pour retourner à Médine. Par hasard, le mari de Halima se trouvait parmi les prisonniers. Malgré son hostilité, le saint prophète Mohammed l'a libéré en raison de l'aide offerte par Halima. Et le saint prophète a aussi libéré Halima sans demande de rançon. Halima et son mari sont partis chez eux tout contents. Zayd bin al-Haritha avait participé dans une autre saria au cours du mois Jamad al-Oula en l'an 6 de l'Hégire dans la région 10. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce sujet dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. Zayd bin Haritha venait à peine de rentrer de son expédition contre les Banu Sulaym. quand le saint prophète, paix soit sur lui, l'a envoyé de nouveau hors de Médine au cours du Jamadil Oula. Il l'a envoyé à la tête de 170 compagnons. La mission de cette expédition, selon les biographes, était d'intercepter une caravane de Mekwa qui rentrait à la Mecque de la Syrie. Je précise ici que généralement les caravanes des Quraychites étaient armées et ces caravanes traversaient tout près de Médine lors de leur voyage entre la Mecque et la Syrie. Et ils étaient donc un danger constant pour les musulmans. D'ailleurs, là où elles passaient, ces caravanes soulevaient les tribus arabes contre les musulmans. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que ces campagnes avaient attisé une hostilité dangereuse contre les musulmans dans le pays tout entier, d'où l'importance de les arrêter. En tout cas, le saint prophète Mohammed bin Sosa, lui, a envoyé Zayd bin al-Haritha dès qu'il a eu la nouvelle du passage de la caravane. Zayd, avec ruse, s'est avancé sans alerter personne et il a rattrapé la caravane dans la région appelée Is. Ce lieu se trouve à 4 jours de voyage de Médine vers la côte. Étant donné que l'attaque fut soudaine, les membres de la caravane n'ont pas pu combattre les musulmans et ils ont abandonné leurs affaires dans la fuite. Zayd a fait quelques prisonniers et il a pris leurs effets pour rentrer à Médine afin de les présenter au saint prophète Mohammed bin Sosadoui. Chaque expédition militaire ou chaque armée qui a été envoyée était motivée par une information sur les complots ourdis par les mécréants contre les musulmans ou sur leur intention d'attaquer les musulmans. Zayd bin al-Haritha avait participé dans une autre saria en l'an 6 de l'Hégire, au cours du mois Jamad al-Akhir vers Taraf. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique qu'après la ghazwa contre les Banu Lihan en l'an 6 de l'Hégire au cours du mois Jamad al-Akhir, le saint prophète Mohammed bin Sassalui a envoyé Zayd bin al-Haritha à la tête de 15 compagnons vers Taraf. Taraf qui se trouve à 36 000 de Médine. Ce lieu était habité par les Banu Sahlaba à l'époque. Or, avant que Zayd n'atteigne la région, les gens de la tribu s'étaient dispersés lorsqu'ils ont été informés en avance. Zayd et ses compagnons sont retournés à Médine après une absence de quelques jours. Il n'y a pas eu de combat là-bas et ils n'ont pas cherché les membres de la tribu non plus. Zayd a participé dans une autre expédition vers Hisma au cours du mois Jamad al-Akhir en l'an 6 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce sujet, au cours de ce même mois du Jamad al-Akhir, le saint prophète a envoyé Zayd à la tête d'une armée de 500 musulmans à Hisma. Hisma qui est situé vers le nord de Médine et où habitaient les Banu Judam. Voici la raison de cette expédition. Dihya Kalbi, un compagnon du saint prophète Mohammed bin Sassadoui, rencontré de la Syrie après une rencontre avec le roi byzantin. Et il avait en sa possession des cadeaux offerts par le roi, ainsi que des marchandises commerciaux. Quand Dihya est passé dans la région des Banu Judam, Khouraïd bin Arid, le chef de cette tribu est sorti avec ses hommes pour l'attaquer. Ils ont dépossédé Dehya de ses biens et des cadeaux offerts par le roi byzantin, tant et si bien qu'ils n'ont laissé sur lui que des guenilles. Les Banu Zubayb, dont certains étaient devenus musulmans, étaient une branche des Banu Dhurram. Quand ils ont eu connaissance de cette attaque, ils ont poursuivi ceux des Banu Dhurram qui avaient mené l'attaque et ils leur ont repris les marchandises qu'ils avaient volées. Ensuite, ils sont partis à Médine accompagnés de Dehya et des marchandises. Dehya a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de la situation. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé Zayd bin al-Haritha. Et Dehya l'a accompagné. L'armée de Zayd s'est avancée habilement et prudemment, se cachant durant la journée et voyageant durant la nuit. L'armée est arrivée à Hismi et est tombée sur les membres de la tribu Banu Juzam le matin. Les membres de la tribu Banu Juzam ont pris des armes et ont combattu les musulmans. Mais en raison de l'attaque soudaine des musulmans, ils n'ont pas pu maintenir le front et ils ont pris la fuite après un court combat. Les musulmans ont remporté la victoire et Zayd est retourné avec un butin important, avec du bétail et environ 100 prisonniers. Avant que Zayd n'arrive à Médine, le clan Banu Zubayb, une des branches des Banu Dhurram, s'est présenté avec leur chef qui se nommait Rafa bin Zayd au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils se sont présentés après avoir eu la nouvelle de l'expédition de Zayd et ils ont plaidé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ô envoyé d'Allah, nous sommes devenus musulmans. Et d'ailleurs, notre tribu a conclu un pacte de paix. Pourquoi donc notre tribu a-t-elle été attaquée? En effet, certains membres de leur tribu ont été victimes de cet assaut. Le saint prophète a répondu, « C'est vrai, mais Zayd n'était pas au courant de cela. » Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a exprimé sa profonde tristesse concernant ceux qui ont été tués. Abu Zayd, le compagnon de Rifa, a déclaré au prophète d'Allah, « Nous n'avons aucune requête à faire concernant ceux qui ont été tués. Cet incident a pour cause un malentendu. Ceux des nôtres qui sont inclus dans le pacte ont aussi été impliqués dans la bataille. Libérez ceux de notre tribu qui ont été faits prisonniers et retournez-nous nos biens. » Le saint prophète a répondu, oui, c'est vrai. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a immédiatement envoyé Ali, lui confiant son épée comme gage et lui demandant d'informer Zayd qu'il devait relâcher les prisonniers de cette tribu et retourner leurs biens. Zayd a suivi sur le champ l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ceci est un exemple du respect des pactes par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète n'a pas permis qu'on commette des exactions. Il y a eu une méprise et il est fort probable que certains des membres de cette tribu avaient pris part à cette attaque sciemment. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui les a tous libérés et il leur a retourné leurs biens. Suite aux ordres du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, un mois après la Saria de Hismi, Zayd a participé à une autre expédition au cours du mois de Rajab, en l'an 6 de l'Hégire, dans la vallée d'Al-Qura. Quand le détachement de Zayd est arrivé dans la vallée d'Al-Qura, les membres de la tribu Banu Fazara s'étaient apprêtés au combat. Ainsi donc, nombre de musulmans sont tombés à martyrs lors du combat. Zayd lui-même a été grièvement blessé, mais Allah l'a protégé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique que la vallée d'Al-Qura se situe au nord de Médine sur la route menant vers la Syrie. Il s'y trouvait de nombreux villages, de nombreux hameaux, et c'est pour cette raison qu'on l'a nommée la vallée d'Al-Qura, c'est-à-dire la vallée des villages ou des hameaux. L'expédition de Mouta a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Mouta se trouve tout près de Balqa, en Syrie. Allama ibn Sa'd explique les raisons de cette expédition. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Harith bin Umair comme émissaire au roi de Basra afin de lui remettre une lettre. Quand il est arrivé à Mouta, eh bien, Shahrabil bin Amr al-Ghassani l'a tué. Harith bin Umair était l'unique émissaire du saint prophète Mohammed qui a été tué. Cet incident a fort attristé le saint prophète Mohammed Il a invité les musulmans à prendre les armes. Ils se sont réunis à Njuruh et ils étaient 3000. Le saint prophète Mohammed avait choisi Zayd bin Harith comme commandant de cette armée et il lui a confié un drapeau blanc. Et il lui a conseillé de se rendre là où Harith bin Umair est tombé à martyr. Et là-bas, il devait inviter les gens vers l'islam. S'ils embrassaient l'islam, ils seraient laissés en paix. Sinon, Zayd devait implorer l'aide de Dieu et livrer bataille contre eux. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Jamad al-Awwal en l'an 8 de l'Hégire. Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed avait choisi Zayd bin Harith comme commandant à la tête de l'expédition de Mouta. Il a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Ja'far. Si ce dernier tombait lui aussi en martyr, Abdullah bin Rawaha serait le chef de l'armée. Et cette armée était aussi connue comme la Jaysh al-Umara. Ceci a été mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari et dans Masnad Ahmad bin Hanbal. Selon les récits, Ja'far a dit au saint prophète Mohammed, puis soit sur lui, ou envoyé d'Allah, « Je n'avais jamais pensé que vous choisirez Zayd comme commandant à ma place. » Le saint prophète, puis soit sur lui, a répondu, « Oublie cela, car tu ignores ce qui est meilleur. » Hazrat Muslim Maud Radwatalanhu a aussi évoqué l'expédition de Mouta. J'avais brièvement mentionné cet incident quelques semaines ou quelques mois de cela. Je l'évoque de nouveau étant donné que je mentionne ici Zayd. Hazrat Muslim Maud explique que le saint prophète Mohammed avait choisi Zayd comme le commandant de cette armée, en ajoutant que si Zayd est tombé en martyr, eh bien, il sera remplacé par Ja'far. Si Ja'far était tué, eh bien, Abdullah bin Rawaha sera le commandant de l'armée. Et si ce dernier mourrait, eh bien, les musulmans devront choisir leur chef d'un commun accord. Un juif était présent lorsque le saint prophète Mohammed lui donnait ses directives. Le juif a déclaré, « Je ne vous accepte pas comme prophète, mais si vous êtes véridique, eh bien, aucun des trois ne retournera vivant, car toute parole qui sort de la bouche d'un prophète s'accomplit. » Quelques mois de cela, j'avais peut-être dit que le juif était parti voir Zayd pour lui dire ceci. En tout cas, c'est ainsi que Hazrat Muslim Maud a présenté ce récit. Et Hazrat Moussemoud explique lui aussi que le juif présent lorsque le saint prophète donnait ses directives s'est rendu auprès de Zayd et il lui a dit ceci, que si Mohammed est véridique, eh bien aucun de vous trois ne retournera vivant. Zayd a répondu, peu importe si je retourne vivant ou pas, Allah sait le mieux. En tout cas, je suis certain que Mohammed est un vrai messager et un vrai prophète. Et la sagesse divine a voulu que ces paroles s'accomplissent. Zayd est tombé en martyr. Jafar a pris la commande de l'armée pour ensuite tomber en martyr. Abdullah bin Rawaha l'a remplacé à la tête de l'armée et lui aussi est tombé en martyr. L'armée était sur le point de se disperser quand Khalid bin Walid a pris le drapeau sur l'insistance des musulmans et Allah leur a accordé la victoire par son entremise. Khalid a ramené l'armée sain et sauf. Selon Bukhari, Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed bin Sassoui a déclaré « Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Jafar a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. » Le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait les yeux en larmes lorsqu'il donnait ces nouvelles. N'ayant plus de chef, Khalid bin Walid a pris le drapeau et il a remporté la victoire. Quand Allah a informé le saint prophète Mohammed bin Sassoui à propos des martyrs de Zayd bin al-Harith, de Jafar et d'Abdullah, eh bien, il s'est tenu debout et il a mentionné Zayd en tout premier. Et il a déclaré, « Oh Allah, pardonne à Zayd, oh Allah, pardonne à Zayd, oh Allah, pardonne à Zayd. » Ensuite, il a déclaré, « Oh Allah, pardonne à Jafar et à Abdullah bin Rawaha. » Aïcha, radhiyallahu anha, relate qu'après le martyr de Zayd et de Jafar et d'Abdullah bin Rawaha, le saint prophète Mohammed bin Sassoui était assis dans la mosquée et il avait de la tristesse sur le visage. Selon Tabaqat al-Kubra, après le martyr de Zayd, le saint prophète fait face à lui est parti présenter ses condoléances aux membres de sa famille. Sa fille était sur le point de pleurer. Et en la voyant, le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait des larmes aux yeux. Zayd bin Abada lui a demandé, « Oh, envoyé d'Allah, pourquoi ces larmes ?» Il a répondu, « Ceci est une preuve d'amour de la part d'un amoureux pour son bien-aimé. » Allama ibn Sa'd explique en ces termes le martyr de Zayd. Il déclare que le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait nommé Zayd comme le commandant de l'expédition à Mota et il l'avait préféré à d'autres commandants. Quand le combat entre les musulmans et les polythéistes a débuté, eh bien, les commandants choisis par le saint prophète ont combattu à pied. Zayd a pris le drapeau et il s'est battu. Les autres aussi ont combattu à ses côtés. Au cours de la bataille, Zayd a été tué par un coup de lance. Il avait 55 ans au moment de son martyr. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui a dirigé la prière funéraire de Zayd et il a déclaré « Demandez pardon pour Zayd ». Il est entré au paradis en courant. Oussama, le fils de Zayd, relate ceci. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait l'habitude de prendre Hassan et moi-même, c'est-à-dire le fils d'Oussama, Oussama. Il avait l'habitude de les prendre dans ses bras en priant ainsi. « Oh Allah, aime ces deux-là, car je les aime. » Jabla relate que si le saint prophète Mohammed bin Sassoui ne participait pas dans une expédition, il confiait ses armes uniquement à Ali et à Zayd. Jabla ajoute que le saint prophète Mohammed bin Sassoui avait reçu deux selles en cadeau. Il a gardé une des selles et il en a offert l'autre à Zayd. Jabla ajoute, on avait offert deux tuniques au saint prophète Mohammed lui en cadeau. Il a gardé une tunique pour lui et il a offert la deuxième à Zayd. Selon un autre récit, on appelait Zayd bin Haritha le bien-aimé du saint prophète Mohammed lui. Il avait déclaré à propos de Zayd, c'est la personne que j'aime le plus, car Allah l'a récompensé. Allah l'a récompensé par l'entremise de l'islam et l'envoyé d'Allah l'a récompensé en lui accordant sa liberté. Je présente ici le résumé des récits sur la bataille de Mauta. Ce sont des récits tirés de divers livres historiques. Au cours du mois de Safar en l'an 11 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a préparé une grande armée pour se venger de la bataille de Mauta. Et le saint prophète Mohammed lui a demandé aux musulmans de s'apprêter à combattre l'Empire byzantin. Cette armée a été préparée après la bataille de Mauta et cette armée n'avait pas de lien direct avec Zayd bin Haritha car il était tombé en martyr ultérieurement. Mais il a été mentionné dans le cadre de la préparation de cette armée et son objectif et c'est pour cette raison que je mentionne cette bataille ici. J'avais peut-être aussi fait mention partiellement de cette bataille en évoquant Oussama. Oussama, quant à lui, n'était pas un vétéran de Badr car il était très petit. Je l'ai mentionné en passant en évoquant d'autres compagnons. Le lendemain, après avoir préparé l'armée, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Oussama bin Zayd et il lui a confié le commandement de l'armée en lui disant « Rends-toi là où ton père est tombé à martyr en Syrie. » Il lui a dit, « Voyage rapidement et atteins l'ennemi avant qu'il ne soit au courant de ta venue. » Ensuite, le matin, lance l'attaque contre les gens d'Oubna. C'est un lieu qui se trouve dans la région de Balka, tout près du lieu de bataille de Mauta. Balka est une région de la Syrie située entre Damas et la vallée d'Al-Qura. On dit que ce lieu a été fondé par un certain Balik qui était un descendant de Lot. Daroum est un lieu situé en Palestine sur la route menant en Égypte. Le saint prophète Mohammed lui a demandé de se venger de la mort de Zayd dans cette région. Et il lui a aussi conseillé ceci. Prends des guides et trouve des gens pour t'informer de la situation exacte. Qu'Allah t'accorde du succès et reviens vite. Oussama avait entre 17 et 20 ans lors de cette expédition. Le saint prophète Mohammed lui a attaché de ses mains un drapeau pour Oussama et il lui a dit ceci. Fais le djihad dans la voie d'Allah. Au nom d'Allah, mène le combat contre celui qui rejettera Allah. Oussama est parti avec le drapeau et l'a confié à Buraïda. Cette armée s'est réunie à Djurf, Djurf qui est situé à 3000 de Médine. On dit que cette armée comprenait 3000 soldats, dont des Muhajirines et des Ansar. De grands compagnons à l'instar d'Abu Bakr, d'Omar, d'Ubaïda bin al-Jarrah et de Sa'ad bin Abi Waqqas étaient présents dans cette armée. Mais l'armée était sous la direction d'Oussama qui n'avait que 17 ou 18 ans. Certains ont objecté contre le fait qu'un jeune soit placé à la tête de grands compagnons. Le saint prophète Mohammed Bissos, lui, était fort en colère d'entendre ces commentaires. Il avait un mouchoir sur la tête et il a porté son manteau. Et il est monté sur sa chaire pour déclarer « J'ai entendu les critiques de certains des vôtres sur le commandement d'Oussama. Vous critiquez mon choix d'Oussama comme commandant, tout comme vous m'avez critiqué pour avoir choisi son père dans le passé. » Ensuite, le saint prophète a déclaré par Dieu, Zayd bin al-Harith possédait les aptitudes pour commander, et après lui, son fils possède lui aussi les mêmes aptitudes. Zayd et Oussama font partie de ceux que j'aime le plus et certainement tous deux méritent le bien. Ensuite, il a déclaré, je souhaite le bien pour Oussama, car il est parmi les meilleurs d'entre vous. Le saint prophète Mohammed Bissos lui a prononcé ces paroles le 10 du mois Rabiul Awwal, c'est-à-dire deux jours avant son décès. Les musulmans qui avaient accompagné Oussama ont souhaité adieu au saint prophète Mohammed Bissos lui pour se joindre à l'armée à Djurf. La maladie du saint prophète Mohammed Bissos lui s'est aggravée, mais il a insisté que l'armée d'Oussama devait partir. Le dimanche, la douleur du saint prophète Mohammed Bissos lui s'est aggravée. Quand Oussama est retourné dans les rangs de l'armée, l'envoyé d'Allah s'est évanoui. Ce jour-là, on lui a offert des médicaments. Oussama s'est baissé la tête pour embrasser le saint prophète Mohammed Bissos lui. Celui-ci n'a pas pu parler, mais il a indiqué vers le ciel avec ses mains et il les a placées sur la tête d'Oussama. Oussama a déclaré, « J'ai compris que le saint prophète Mohammed Bissos lui priait pour moi. » Oussama est ensuite retourné vers l'armée. Le saint prophète Mohammed Bissos lui a repris connaissance le lundi et il a dit à Oussama de partir avec les bénédictions d'Allah. Oussama a quitté le saint prophète Mohammed Bissos lui et a ordonné aux soldats de s'apprêter à partir. Au même moment, Oumme Ayman, sa mère, a envoyé quelqu'un pour l'informer que le saint prophète Mohammed Bissos lui vivait ses derniers moments et que son état s'était aggravé. En entendant cette nouvelle grave, Oussama, accompagné d'Omar et d'Abu Ubaïda, s'est présenté au saint prophète Mohammed Bissos lui et il a constaté qu'il vivait ses derniers moments. Le 12 Rabiul Awwal, après le coucher du soleil, le saint prophète Bissos lui a rendu l'âme. Sur ce, l'armée campée à Djurf est retournée à Médine. Bouraïda a planté le drapeau d'Oussama devant la porte du saint prophète Mohammed Bissos lui. Après le serment d'allégeance à Abu Bakr, Abu Bakr a ordonné à Bouraïda de reprendre le drapeau et de se rendre chez Oussama pour lui demander de partir avec l'armée préparée par le saint prophète Mohammed Bissos lui. Bouraïda a pris le drapeau pour se rendre au premier lieu de campement de l'armée. Après le décès du saint prophète Mohammed Bissos lui, presque toutes les tribus importantes ou pas de l'Arabie se sont rebellées et ont été coupables d'hypocrisie. Les Juifs et les chrétiens ont étendu leurs yeux et ils guettaient joyeusement le résultat de la situation et ils se préparaient à se venger. Le décès du saint prophète Mohammed Bissos lui et le nombre inférieur des musulmans ont placé les musulmans dans une très mauvaise posture. En raison de la gravité de la situation, de grands compagnons ont demandé à Abu Bakr de retarder le départ de l'armée d'Oussama. Abu Bakr a refusé et il a déclaré. Il a déclaré, même si des animaux sauvages me traînent, j'enverrai cette armée en accord à la décision du saint prophète Mohammed Bissos lui. Même si je suis abandonné tout seul, j'appliquerai cette décision du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. En tout cas, Abu Bakr a appliqué le commandement du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il a ordonné aux compagnons qui faisaient partie de l'armée d'Usama de partir rejoindre les rangs de leur armée à Djuruf. Abu Bakr a déclaré, « Tout individu faisant partie de l'armée et à qui le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné de rejoindre ses rangs ne restera pas en arrière. » D'ailleurs, je ne lui donne pas la permission de rester en arrière. Il doit partir même s'il doit se rendre à pied. En tout cas, l'armée s'est préparée à partir de nouveau. Vu la situation critique, certains compagnons ont de nouveau conseillé de ne pas envoyer l'armée dans l'immédiat. Selon un récit, Usama aurait demandé à Omar de conseiller au calife Abu Bakr d'annuler l'ordre de départ afin qu'il puisse s'occuper des apostats et de protéger le calife, la famille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi que les musulmans, afin de les protéger des attaques des polythéistes. En sus de cela, certains Ansar ont demandé à Omar de conseiller à Abu Bakr de remplacer Usama par un commandant plus âgé, s'il insiste à envoyer cette armée. Quand Omar a présenté leur avis à Abu Bakr, eh bien, le calife Abu Bakr a répliqué fermement. Il a déclaré, « Même si des animaux sauvages pénètrent à Médine et m'emportent, j'appliquerai certainement l'ordre émis par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Sur ce, Omar a présenté le message de certains Ansar. En l'entendant, Abu Bakr s'est exclamé vivement. C'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a choisi Usama comme commandant et tu me demandes de l'écarter. Omar est retourné vers l'armée en entendant la décision définitive d'Abu Bakr et en ayant vu sa détermination. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, tout en colère, Omar a répliqué, « Partez d'ici. À cause de vous, j'ai subi la réprimande du calife du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Quand l'armée d'Usama s'est réunie à Djuruf en accord aux ordres d'Abu Bakr, eh bien, Abu Bakr s'est rendu sur place pour examiner les troupes et pour dresser leur rang. Le départ offrait un spectacle fort étonnant. Usama était sur sa monture, tandis que le calife Abu Bakr, le prophète d'Allah, était à pied. Usama a déclaré, au calife du prophète d'Allah, montez sur la monture ou permettez-moi de descendre. Abu Bakr a répondu, par Allah, tu ne descendras pas et je ne monterai pas non plus. Pourquoi ne devrais-je pas salir mes pieds pour quelque temps dans la voie d'Allah? Quand le guerrier marche, il mérite 700 récompenses. Son statut est élevé 700 fois et 700 de ses défauts disparaissent. Abu Bakr avait besoin d'Omar à Médine pour diverses tâches. Au lieu de le retenir directement, Abu Bakr a demandé la permission à Usama de laisser Omar à Médine s'il pense que cela était souhaitable. Usama a répondu à l'appel du calife et a permis à Omar de rester à Médine. Après cet incident, à chaque fois qu'Omar rencontrait Usama, il s'adressait à lui en ces termes. « Que la paix soit sur toi, ô émir !» Usama répondit, « Qu'Allah t'accorde son pardon, ô émir des croyants !» En tout cas, Abu Bakr a prodigué ses conseils à l'armée. Ne soyez pas coupable de traîtrise. Ne violez pas votre engagement. Ne volez pas. Ne mutilez pas les ennemis tués. Ne tuez pas les enfants en bas âge, les vieux et les femmes. Ne coupez pas les dattiers, ne les brûlez pas. Ne tuez pas des moutons, des vaches ou des chameaux, hormis pour en manger. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte de Dieu dans les églises. Ne les touchez pas. Vous rencontrerez d'autres qui vous offriront tout type de provisions dans leur récipient. Mangez-en au nom d'Allah si vous le souhaitez. Vous allez aussi rencontrer un peuple qui s'est rasé le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés. Donnez-leur une légère blessure à coup d'épée et défendez-vous au nom d'Allah. Qu'Allah vous protège des épidémies de la peste et des blâmes. Ensuite, Abu Bakr a demandé à Oussama d'accomplir tout ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui avait demandé de faire. D'une part, Abu Bakr a demandé à Oussama de respecter toutes les règles islamiques sur les conflits armés et d'éviter toute exaction. Et cela démontre aussi le fait que Abu Bakr était certain que cette armée sera victorieuse. C'est pour cette raison qu'il lui a dit que tu auras le succès. En tout cas, Oussama est parti le premier du mois Rabiul Akhir en l'an 11 de l'Hégire. Oussama a quitté Médine et a parcouru plusieurs étapes pour atteindre Oubna en Syrie, selon les directives du saint prophète Mohammed, que ce soit lui. Le matin, il a entouré la ville et a lancé l'assaut. Le cri de guerre était « Tuez aux combattants jouissant de la divine ». Tous ceux qui ont combattu les musulmans ont été tués au cours de ce combat. Les musulmans ont aussi fait de nombreux prisonniers et ils ont amassé un grand nombre de butins. En réservant un cinquième, le reste a été distribué aux soldats. Les cavaliers ont reçu le double des fantassins. Après la bataille, l'armée a campé sur les lieux un jour avant de rentrer à Médine. Oussama a envoyé un messager offrir la bonne nouvelle aux gens de Médine. Aucun musulman n'a été tué au cours de ce combat. Abu Bakr, accompagné des Muhajirines et des Ansar, est sorti à l'extérieur de Médine pour accueillir chaleureusement l'armée victorieuse. Bouraïda était à la tête de l'armée en faisant flotter le drapeau. L'armée s'est rendue jusqu'à la mosquée du Saint-Prophète à Médine. Oussama a accompli 2 rakats de prière facultative avant de se rendre chez lui. Selon divers récits, l'armée serait restée en dehors entre 40 et 70 jours avant de rentrer à Médine. Le départ de l'armée d'Oussama a été très avantageux pour les musulmans, car les Arabes disaient que si les musulmans n'étaient pas puissants, ils n'auraient pas envoyé cette armée à l'extérieur. C'est ainsi que les mécréants ont renoncé à nombre de leurs complots contre les musulmans. Par la grâce et le soutien d'Allah, Oussama a accompli chacune des paroles du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Cette bataille était hors pair eu égard à sa gestion et à sa stratégie. C'était une campagne très réussie. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait d'ailleurs affirmé qu'Oussama était un des meilleurs commandants. La grâce de Dieu ainsi que les bénédictions des prières du calife et des prières du saint prophète ont prouvé qu'Oussama était un commandant apte à l'instar de son père Zayd et qu'il possédait aussi des aptitudes sans pareil dans ce domaine. La détermination rigoureuse du calife a voulu que cette armée parte en dépit de nombreux dangers internes et externes. Dieu lui a accordé du succès tout en enseignant aux musulmans leur première leçon, notamment qu'après le décès du saint prophète Mohammed, peace be upon lui, toutes les bénédictions sont liées à l'obéissance au calife. Le Messie premier Islam a également mentionné ce récit dans son ouvrage Sirul Khilafa. Qu'Allah répande une pluie de grâce sur Zayd bin Harith et sur son fils Usama bin Zayd, deux personnes qui étaient les bien-aimées de notre maître, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. La première prière funéraire sera celle de Siddiq Adam Doumbia, qui était un missionnaire en Côte d'Ivoire. Il était malade ces derniers temps et l'année dernière, il a subi une intervention sur la prostate. Il avait aussi une insuffisance rénale et il était sous dialyse. Il séjournait depuis une longue période à Abidjan pour son suivi médical. Ces derniers jours, son état s'était soudainement dégradé et il a été transféré à l'hôpital militaire où il est décédé le 14 juin dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siddiq Adam naquit en 1950 dans un village de la Côte d'Ivoire appelé Losingué. Il avait accepté l'Ahmadiyya peu avant 1977. Le défunt laisse derrière lui son épouse, sept filles et deux fils. En 1981, après avoir dédié sa vie, il a débuté un voyage à pied vers le Pakistan avec deux amis dans le but de s'instruire. Après avoir enduré les aléas du voyage pendant près d'un an, il est arrivé à Rabwa en 1982 et il a commencé ses études à la Jamia Ahmadiyya. Après avoir étudié à la Jamia, il est rentré en Côte d'Ivoire en 85-86 et il a servi la communauté pendant 30 ans en tant que missionnaire jusqu'à son décès. Il a servi dans différents pays d'Afrique de l'Est. Voici quelques détails au sujet de son voyage vers le Pakistan. Il raconte qu'en 1970, lorsque le troisième calife a visité le Ghana, lorsqu'il est parti là-bas, cette visite l'avait affecté son âme et il changea son état intérieur. Dès son retour en Côte d'Ivoire, il a préparé son passeport. Il a tenté d'entreprendre un voyage vers le Pakistan avec l'un de ses amis pour rencontrer le calife. Entre-temps, un jeune homme du Mali nommé Omar Mouaf, qui est un de nos missionnaires, est venu de la mosquée d'Abidjan. Et il a accepté l'Ahmadiyya sur la base d'un de ses rêves. Et quelques jours plus tard, il a exprimé sa grande envie de visiter la ville du Messie premier alayhi salam et de rencontrer le calife du Messie promis alayhi salam. Il avait lui aussi le grand désir de visiter la ville du Messie promis alayhi salam et de rencontrer le calife du Messie. C'est ainsi que ces trois amis ont décidé d'entreprendre ce voyage vers le Pakistan. Et ils ont commencé leur voyage le 20 août 1981. Ils sont partis de la Côte d'Ivoire et leur première étape était le Ghana, où ils ont rencontré Wahab Adam, amir et missionnaire en chef. Après avoir prié, ils ont traversé le Togo, le Bénin et sont arrivés à Lagos, au Nigeria, où ils ont résidé à la mission. Ensuite, ils sont partis pour le Cameroun. Le missionnaire du Nigeria a prié pour eux et il les a aidés financièrement. Ensuite, après avoir traversé le Cameroun, ils sont arrivés au Tchad, où ils ont été emprisonnés. Mais en tout cas, ils ont pu continuer leur voyage et ils ont fait preuve de patience et de courage. Il était impossible de voyager au-delà du Tchad, mais grâce à un rêve, Dieu les a guidés et Dieu les a incités à rejoindre l'armée. Ainsi, ils ont tenté de s'enrôler dans l'armée libyenne. Dieu les a aidés à rendre possible ce qui était impossible en apparence. À un moment, le gouvernement libyen a décidé de les expulser. Mais Dieu a créé des circonstances qui ont fait en sorte que cet ordre de les renvoyer dans leur pays a été annulé. Et de plus, ils ont eu l'occasion de servir volontairement dans l'armée libyenne. Et ils ont passé 8 mois sur la frontière avec le Liban. Lorsque la guerre s'est terminée, ils ont exprimé leur souhait de partir au Pakistan à leurs supérieurs. Leur supérieur leur a dit « Restez encore quelque temps avec vous, ensuite je vais vous préparer un passeport international et je vous enverrai aux États-Unis. » Ils ont remercié leur supérieur et ils ont déclaré que nous souhaitons partir au Pakistan pour acquérir de la connaissance. L'ambassade du Pakistan leur a refusé le visa. Mais par l'entremise de leur supérieur, ils ont pu avoir des billets pour Karachi. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à l'aéroport le 27 novembre 1982 pour partir au Pakistan. Et ils ont été témoins de l'aide de Dieu. Leur supérieur l'a présenté à un officier de police en disant qu'il souhaitait partir au Pakistan et qu'il devait les aider. Cet officier de police les a aidés et l'avion a décollé de Damas durant la nuit et a atterri le lendemain matin à l'aéroport de Karachi. Ils étaient certes à Karachi, mais ils n'avaient pas de visa. Après avoir prié, ils se sont présentés devant le contrôle de police. Les policiers les ont interrogés et ils ont déclaré qu'ils étaient venus étudier au Pakistan. L'officier de police a posé des tampons sur leur passeport et leur demandait par la suite où souhaitaient-ils se rendre. Ils ont dit que nous partons à Rabwa. Le policier leur a demandé « Est-ce que vous êtes des Kadiani ?» Avant que des pensées négatives n'affectent ce policier et qu'il n'annule leur visa, son compagnon lui a dit « Ils sont venus pour étudier, laisse-les partir, qu'ils soient Kadiani ou pas. » En tout cas, ils étaient très contents de partir à Rabwa et de rencontrer le calife. Ils étaient tellement contents qu'ils n'ont même pas vérifié s'il y avait une Jamaat à Karachi et de pouvoir rencontrer les membres de la Jamaat de Karachi afin que cela facilite leur voyage. Au lieu de contacter les membres de la Jamaat, ils sont partis directement à la gare ferroviaire et ils ont acheté des billets pour se rendre à Rabwa. Le vendeur au guichet était une personne très cupide et bigote. Il a déclaré que nous ne vendons pas des billets aux Ahmadis. Après une longue dispute de 2 heures, il a accepté de vendre des billets, mais 2 fois plus cher. Et il leur a donné des places dans le train le plus lent. Et ils ont mis 24 heures pour se rendre à Rabwa de Karachi. En tout cas, ils étaient très enthousiastes de rencontrer le calife après ce trajet très difficile. Et dès qu'ils sont arrivés à Rabwa, ils se sont rendus à la Daru Ziafat. Ils ne parlaient pas la langue ourdou et ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé entre-temps. Mais ils entendaient les gens parler du 4e calife. Et cela les a rendus inquiets. Et ils ont appris par la suite que le calife venait de rendre l'âme, que le 3e calife était décédé et que le 4e calife occupe le poste de calife. Et ils ont rencontré le 4e calife en 1982 et ils se sont inscrits à la Jamia. Une fois son cursus complété, M. Doumbia est reparti en Côte d'Ivoire où il a été affecté par la Jamaat dans différents endroits. De 87 à 91, il a servi en Côte d'Ivoire, ensuite de 91 à 92 au Nigeria, de 92 à 94 au Bénin, de 94 à 96 au Togo, ensuite de 1996 jusqu'à son décès en Côte d'Ivoire. Bassit Saab, le missionnaire de la Côte d'Ivoire, déclare « Sidik Adam était un dévoué du califat. Il était un serviteur sincère. Il a travaillé avec moi pendant une longue période. Il se consacrait aux prières. Il était régulier dans ses prières de Tahajjud et il faisait des rêveries. Il savait très bien interpréter des rêves. » Le défunt envoyait régulièrement ses rapports mensuels ici au centre et il m'écrivait également des lettres pour des prières et il avait l'habitude de m'écrire en langue ourdou. Le missionnaire ajoute que le défunt était très pieux et il avait une grande estime de la ponctualité. Il avait un très grand sens de la responsabilité. Il était toujours ponctuel et il tentait de terminer le travail qui lui était confié dans le délai imparti. Il n'était jamais effrayé par le fait d'entreprendre de longs voyages et il prêchait de manière très attirante le message de l'Ahmadiyya. Il parlait du Dajjal, de ses signes et des perversités du monde contemporain et mentionnait ensuite la venue du Mahdi. Ceux qui l'écoutaient ne pouvaient s'empêcher de lui faire des compliments. Il rencontrait souvent du succès lors de ses prêches. Il est parti dans la région du Nord et grâce à ses efforts, Dieu a permis à des milliers de personnes d'accepter le message de l'Ahmadiyya. Il mentionnait souvent son voyage au Pakistan et les grâces divines qu'il avait accompagnées. Et il présentait ce voyage comme un signe de la véracité de l'Ahmadiyya en disant que dans des pays très éloignés, Allah l'exalté avait octroyé au Messie premier l'Islam des personnes pour l'aider. Des personnes qui étaient prêtes à faire tout sacrifice dans cette voie. Et Allah les a récompensés et a aidé son bien-aimé Mahdi. Le discours du défunt en langue Jula était très captivant. Il animait aussi des émissions en direct à la radio. Ces émissions étaient d'une grande qualité et c'était des émissions qui étaient très appréciées. Qu'Allah accorde son pardon au défunt, qu'il répande sa grâce sur lui, qu'il élève son rang, et qu'il accorde de la patience et du courage à ses enfants, et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle de Mia Rula Mustafa du district d'Okara. Il est décédé le 24 juin à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était Ahmadi de naissance et il se vouait avec enthousiasme aux actes d'adoration. Il faisait ses prières en congrégation, il était régulier dans les prières tahajjud. C'était lui qui lançait l'appel à la prière pour la prière du matin. Il réveillait tous les membres de sa famille pour la prière de Fajr. Jusqu'à ses derniers jours, Allah lui a permis de jeûner pendant le mois du Ramadan. Il faisait le tablir avec beaucoup de passion. Il transmettait le message de l'Ahmadiyya à toute personne. Il était très amical, pieux et sincère. Il avait un lien très ferme avec le califat. Il écoutait les sermons du calife régulièrement, encourageait ses enfants à en faire de même. Il s'occupait des invités du centre et il était toujours prêt à faire des sacrifices financiers. Il a pu aussi installer un puits à Tarpakar. Durant son vécu, il avait déjà payé tout ce qu'il devait pour le fonds d'Al-Wasiya. Quelques années de cela, il a offert sa maison à la Jamaat et il habitait lui-même dans une petite pièce à la mosquée. Cette maison fait office de la maison du missionnaire à présent. Il était moussi, il laisse derrière lui 5 filles et 3 fils. Le défunt était le père de Rula Mustafa, missionnaire au Burundi, qui est occupé par ses fonctions et qui n'a pas participé aux funérailles de son père. Il n'a pas pu non plus assister aux funérailles de sa mère lorsqu'elle était décédée. Rula Mustafa a enduré ces 2 tragédies avec beaucoup de patience et de courage. Qu'Allah fasse qu'il puisse faire montre d'un plus grand courage et qu'il lui permette de mener cette vie de dédié avec fidélité. Les petits-fils du défunt Qasim Mustafa et Mohamed Safiruddin sont également des missionnaires. Son petit-fils Bilal Ahmad a dédié sa vie. Il a complété ses études de médecine et il va servir sur les terrains. Qu'Allah accorde son pardon au défunt, qu'il élève son rang. Rolam Murtaza, qui est un missionnaire et qui est à l'étranger, comme je l'ai mentionné, n'a pas pu participer aux funérailles de son père. Qu'Allah lui accorde patience et courage face à cette perte. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces 2 personnes, Inch'Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.